Bien, bonjour à tous. Les organisateurs m'ont demandé d'intervenir sur le lien entre risques opérationnels et risques environnementaux, ce qui est un peu étrange pour un ergonome, puisque je ne suis pas du tout spécialiste des risques environnementaux, mais cet honneur est probablement dû à la chance que j'ai d'être membre du comité de la prévention et de la précaution au ministère de l'écologie, où je travaille donc sur ces questions avec des collègues qui, eux, sont compétents. Ma présentation va évidemment s'inscrire dans des liens très forts avec celle d'Eric Holnagel, puisque c'est tout à fait des mêmes risques que nous parlons. L'Université catholique de Louvain entretient une base de données qui est trop peu connue, qui tient à jour le nombre de catastrophes technologiques dans le monde, qui sont définies comme des catastrophes qui ont des accidents industriels ou de transport qui ont donné lieu à au moins 10 morts ou au déplacement d'au moins 100 personnes. Et vous voyez sur cette courbe que l'augmentation est extrêmement importante dans les pays développés depuis 30 ans et qu'elle est vertigineuse dans les pays en développement industriel. Alors, évidemment, la question que pour ce colloque, c'est en quoi est-ce que ça nous concerne, au sens où en quoi est-ce que ce serait un problème de travail? Et bien sûr, la réponse, c'est que dans chaque accident industriel, il y a eu des travailleurs en difficulté. Pas seulement en difficulté parce qu'ils sont bien sûr les premières victimes de ce type de catastrophe, mais en difficulté parce que, pour une raison ou pour une autre, ils ont eu du mal à se construire une représentation de la situation dans leur corps qui leur permette de se préparer pour l'action, de prendre les bonnes décisions. Et puis, pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas parvenus à mettre en œuvre les mesures appropriées dans les contraintes de temps réel de l'exploitation. J'insiste sur cette notion de temps réel parce que quand on fait l'analyse des accidents, et quand on arrive au fait qu'un opérateur a fait une erreur, entre guillemets, il faut se méfier du fait que le temps des experts n'a rien à voir avec le temps réel de l'opération. Les experts reprennent a posteriori, en prenant tout leur temps, en ayant toutes les bandes, et en connaissant la fin de l'histoire. Et évidemment, si les opérateurs avaient connu la fin de l'histoire, ils n'auraient pas appuyé sur le mauvais bouton. Face à ces accidents qui se sont développés, et notamment les plus célèbres d'entre eux, évidemment les autorités publiques ont pris des mesures et vous connaissez tous la réglementation Seveso de 82 et surtout celle de 96 qui est devenue extrêmement ferme. Alors c'est intéressant de s'interroger en quoi la réglementation entre en résonance ou pas avec les questions de travail. Alors, la réglementation Seveso impose aux entreprises à risque de mettre en place un système de management de la sécurité extrêmement précis, avec des formalismes extrêmement lourds et l'obligation de rendre des comptes à une autorité de contrôle. Il existe, avec une autre réglementation, évidemment le même formalisme dans les industries nucléaires, dans les transports, etc. Alors, l'analyse des effets de ça montre que, bien sûr, il y a de nombreux effets positifs, que la sécurité a globalement beaucoup progressé dans les entreprises. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui s'est développé, c'est une culture managériale de la sécurité, une culture où les entreprises sont persuadées que la sécurité est du côté des responsables et qu'il faudrait faire descendre cette préoccupation pour la sécurité jusqu'aux travailleurs, avec l'idée que c'est des comportements humains non souhaitables qui aboutissent aux accidents. Un autre effet pervers de cette réglementation, c'est que bien qu'elle ait été faite initialement pour les accidents majeurs, pour prévenir les accidents majeurs, dans les entreprises, dans les faits, l'accent est mis sur les accidents moins graves, les accidents plus quotidiens du travail, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune corrélation entre le niveau de sécurité accident du travail d'une entreprise et son niveau de sécurité par rapport aux risques majeurs. AZF, par exemple, avait zéro accident du travail depuis 2 ans. Il y a eu aussi, du fait des très grands formalismes qui ont été mis en place, le développement possible d'une illusion sur le fait que la situation était sous contrôle grâce à ces procédures. Et comme les procédures sont dans bien des cas, comme je le disais, très descendantes et relativement éloignées de la réalité, pour pouvoir travailler, il y a des cas où on ne peut pas travailler en utilisant les procédures, tout le monde le sait, et il s'est instauré dans un certain nombre d'organisations, le fait que finalement c'était normal de ne pas respecter la procédure en même temps que c'était obligatoire de le faire. Alors, pour reprendre des concepts qui sont de René Amalberti, ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité dans les industries à risque se joue à la rencontre de deux choses. D'une part, il y a ce qu'on pourrait appeler, ce qu'il appelle la sécurité réglée, c'est-à-dire la capacité d'une organisation à anticiper, avec des connaissances expertes, les différentes situations non souhaitables qui peuvent se passer et à les encadrer par des règles qui sont définies par avance et qu'il faut mettre en œuvre. Alors, évidemment, ça, c'est très important. Mais le problème, c'est que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas tout prévoir. Et il y a toujours des situations qui sont des situations qui n'étaient pas prévues par les règles et où la sécurité va dépendre de la capacité de réponse, comme le disait Eric à un instant, de l'organisation en temps réel. Et la capacité de réponse, ce sont les corps des hommes et des femmes qui sont là, c'est l'expérience des collectifs, et c'est ce que Amalberti appelle la sécurité gérée, donc la capacité à faire face en temps réel. Et il y a ce que j'enseigne aux étudiants sous le nom de théorème d'Amalberti, je ne crois pas qu'ils le sachent, c'est que lorsqu'une organisation met toutes ses ressources sur la définition des règles pour faire face à ce qu'on a pu prévoir, elle se trouve complètement démunie pour faire face à une situation qui n'a pas été prévue, parce qu'elle n'a pas investi dans le fonctionnement des collectifs, dans le développement des compétences des opérateurs, dans la capacité du management à être un recours, etc. Du coup, l'enjeu en matière de sécurité des industries à risque, c'est la question de la rencontre entre ces deux types de connaissances. D'une part, et fort heureusement, il y a des experts qui sont porteurs de concepts, de connaissances du général, qui permettent d'anticiper les situations. Et puis d'autre part, il y a, ou il faut espérer qu'il y ait, des opérateurs et des managers de proximité qui sont porteurs dans leur corps de connaissances du fait que ça n'est pas comme dans les concepts. Le fait que les deux vannes sont identiques sur le plan, mais la vanne de droite, il faut lui donner un quart de tour de plus que la vanne de gauche pour avoir le même débit. Ou du fait que, mon Dieu, il y a une vipère qui s'installe de temps en temps dans l'armoire électrique et que, voilà, il faut faire face. Cette connaissance du particulier, c'est ce qui permet le fait de prendre soin, le mot anglais c'est care, des situations telles qu'elles sont. Et la sécurité va se jouer dans la capacité que ces deux modes de connaissance se rencontrent, les deux étant absolument indispensables. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que les connaissances des travailleurs sont indispensables, mais je voudrais insister sur le fait que les connaissances des experts sont indispensables aussi, parce que les experts calculent des situations que, Dieu merci, les opérateurs ne vivront jamais. Et donc, on ne peut pas, dans ces industries-là, se baser seulement sur les connaissances des opérateurs. Évidemment, c'est cette confrontation entre les connaissances du général et les connaissances du particulier, elles ont des effets à la fois sur la conception des situations et sur la vie quotidienne. Le problème, c'est que cette confrontation se passe souvent mal ou se passe souvent trop peu, et que c'est dans l'absence de cette confrontation organisée que naissent les gisements de risque. Alors l'enjeu, c'est d'organiser cette rencontre. C'est l'enjeu des travaux qu'on appelle actuellement les travaux sur une culture de sécurité intégrée, qui est basée sur l'idée que chacun n'a qu'une part des savoirs qui sont nécessaires à la sécurité, et que la sécurité repose sur la capacité de l'organisation à mettre en confrontation et en débat à la fois les règles et les pratiques autour de la sécurité. Alors, pour développer un peu dans la lignée de ce qu'a dit Eric, on connaît assez bien maintenant un certain nombre de propriétés des organisations qui, statistiquement, appellent les catastrophes. La première, c'est les pressions productivistes, au sens où une entreprise, c'est le travail par lequel on fait tenir ensemble des logiques qui n'ont aucune raison de tenir spontanément ensemble. La logique des actionnaires, la logique des salariés, la logique des clients, la logique des riverains. Et gérer, c'est de construire des compromis raisonnablement acceptables par tous ces acteurs dont le jugement peut mettre à mal l'entreprise. Mais à certains moments de l'histoire de l'entreprise, certaines logiques prennent le pas sur d'autres. En général, c'est la logique des actionnaires qui prend temporairement le pas. Et à ce moment-là, on peut avoir des formes de pression où, par exemple, la logique sécurité est mise à mal. Un autre classique des organisations qui appellent les catastrophes, c'est le fait qu'on fait évoluer le système sans que les hypothèses initiales soient remises en cause, soient réétudiées. Par exemple, on augmente le tonnage d'un système sans refaire les études. Et progressivement, le système va migrer vers une zone de risque. Mais cette ligne rouge, tout le monde sait qu'elle existe, mais on ne sait où elle est que quand on l'a franchie, évidemment. Un autre facteur de risque, c'est les organisations où la conception et la prescription sont purement descendantes et où on a perdu le retour d'informations en fonction du terrain, en croyant que les connaissances générales permettent à elles seules de tenir la situation en sécurité. Et un cas particulier de ça, c'est le fait qu'on a de plus en plus de situations où la multiplication de formalismes relativement artificiels diminue le temps qu'on consacre effectivement à travailler. C'est vrai aussi du point de vue de l'évaluation des travailleurs, c'est-à-dire que quand les indicateurs sur lesquels les travailleurs sont évalués n'ont pas grand-chose avec le fait qu'ils doivent prendre soin des situations particulières, de l'infidélité du milieu, comme aurait dit Canguilhem, comme disait Yves Schwartz hier, quand les indicateurs portent seulement sur le respect des prescriptions, on est dans une situation qui est dangereuse. Et puis évidemment, si on se coupe du retour d'expérience, si on se coupe de la remontée d'informations en provenance de la réalité, on se met en danger. C'est particulièrement vrai quand une organisation valorise le fait qu'un bon professionnel est quelqu'un qui n'a pas de problème et que quelqu'un qui signale un problème est soit un horrible syndicaliste, soit un mauvais professionnel. Puis on a un problème grave qui est la destruction progressive des collectifs de métiers. Or, les collectifs de métiers sont un remarquable filet pour la sécurité, notamment quand les gestions des âges et des compétences sont un peu ratées et qu'on a des départs massifs en retraite, avec une arrivée tout aussi massive de jeunes sans qu'il y ait de recouvrement, et où on pense que le niveau universitaire des jeunes peut compenser l'expérience de métier des plus anciens, mais ça n'est pas vrai parce que justement la capacité à prendre soin qui est dans les corps des anciens n'est pas transmise. Alors pour terminer, puisque l'idée c'est de faire de la prospective, évidemment il y a des enjeux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter la réglementation. Un premier enjeu, c'est un socle de valeurs partagées. Vous l'avez vu à l'occasion de différents événements, on sent que quand dans une entreprise, il y a un minimum de points communs du point de vue des valeurs entre les salariés et la direction, la capacité de l'entreprise à faire face à une catastrophe ou à prévenir une catastrophe est beaucoup plus élevée. Or, malheureusement, il y a des secteurs actuellement où il n'y a à peu près plus aucun point commun entre les salariés et la direction, alors qu'il y a des secteurs où ce socle de valeurs partagées est extrêmement fort. Par exemple, il va de soi que dans le nucléaire, tous les salariés de l'entreprise partagent le fait qu'il faut éviter une catastrophe nucléaire. Un enjeu très important, c'est que ces organisations doivent être habitées par la conscience de l'échec possible. Le prochain accident n'a jamais été aussi près. Ce qui interdit absolument l'idée de langue de bois et ce qui interdit absolument les messages managériaux triomphants élaborés par des communicants extérieurs très cher payés où on donne l'impression que la situation est sous contrôle parce qu'on fait des séminaires où tout le monde se dit la même chose dans une parfaite communauté sectaire. Les recherches sur les organisations à haute fiabilité attirent l'attention sur quelque chose qui s'appelle en anglais « sensitivity to operations », que j'ai traduit par « l'attention au prendre soin », c'est l'attention au détail des opérations, l'attention au fait que les choses ne sont jamais pareilles et que ce qui est important, c'est comment ça se passe pour de vrai, avec des vrais opérateurs dans des vraies situations. Mais ça suppose une forme d'humilité qui consiste à se dire que tant que on n'a pas compris l'activité, on ne peut anticiper qu'une partie de ce qui se passe. Un enjeu majeur, évidemment, c'est que la sécurité des organisations dépend du fait que personne ne dispose seul de toutes les informations nécessaires, et donc ça nécessite une culture de la confrontation et du débat qui n'est pas répandue dans toutes les organisations à risque. L'idée que la sécurité passe par le fait que les travailleurs puissent discuter, par exemple, la rédaction d'une procédure, ça n'est pas quelque chose qui est répandu dans toutes les organisations. L'importance du métier, avec ces doubles dimensions que décrit Yves Claude, du genre qui est commun à tous les professionnels de métier et des innovations qui résultent du style personnel et du travail sur ces règles, la barrière du métier est une barrière essentielle du point de vue de la sécurité. Or, un certain nombre, comme je disais tout à l'heure, d'organisations ont perdu le rapport au métier, et c'est un enjeu très important de reconstruire les collectifs de métiers et donc les espaces pour faire parler de métier, comme dit Claude, pour travailler sur des situations particulières. Nous, pour faire parler de métier, on fait des congrès. Et les travailleurs qui partagent un métier de soudeur ou dans une industrie à risque, ils ont besoin d'endroits où ils se parlent des situations difficiles qu'ils ont eu à gérer et où ils fabriquent ensemble les règles de métier pour être plus avancés la prochaine fois. Un enjeu très important aussi, c'est l'attention aux lanceurs d'alerte. Le fait que quelqu'un qui signale que quelque chose est dangereux, ce n'est pas juste un casse-pied. Vous savez que dans toutes les enquêtes de grands accidents, on trouve qu'il y a eu des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que nous faisons de nos lanceurs d'alerte ? Et puis pour terminer, je pense qu'un des points majeurs, c'est que le dialogue social soit capable de se centrer sur le travail. Sur le travail, ça veut dire pas seulement sur l'emploi, pas seulement sur le salaire, mais aussi sur le travail, sur ce qui se joue concrètement dans les situations de travail, sur l'activité. Or, la difficulté est là partagée, puisque les représentants du personnel sont très souvent dans la même situation que les cadres, ils ont beaucoup de points communs, au sens où un représentant du personnel ne connaît pas intimement toutes les situations dont il est le représentant, pas plus qu'un manager d'un service important ne connaît intimement toutes les situations dont il a la responsabilité. Ça veut dire qu'il y a un outil de travail commun absolument indispensable qui est l'humilité qui consiste, avant de prendre une décision ou d'instruire la question en allant voir et en allant voir les travailleurs concernés, on est très loin de ça. Et les pratiques ordinaires des CHSCT dans ces entreprises sont très loin de se centrer sur le travail, et il y a beaucoup à gagner de ce côté-là. Alors, il y a des avancées importantes, je voudrais juste terminer en signalant que l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, qui a été fondé après la catastrophe d'AZF, rassemble dans cet état d'esprit les 40 entreprises les plus dangereuses de France, les organisations syndicales, les collectivités territoriales qui sont concernées, et essaie de construire un référentiel commun pour l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir discuter de ces questions de facteurs humains et organisationnels de la sécurité. Alors, comme c'est gratuit, et donc je me permets de citer le dernier guide qui est téléchargeable sur le site de l'ICSI, qui se veut et qui est déjà en train de devenir une référence commune pour les syndicalistes, pour les représentants du personnel, pour les cadres et pour les dirigeants des entreprises à risque. Je vous remercie.